Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée qu'il vous faut écouter si vous voulez être à la pointe.
Eh ben moi je dis que ça, souvent vous m'avez accusé d'avoir été dur avec vous sur vos intros, mais là bien, moi je dis bien, allez on va dire un bon 12.
Ah merci, c'est gentil, c'est gentil. 486e émission de bande dessinée, cette fois dans sa version longue et nocturne, j'ai envie de dire, puisqu'on est en soirée maintenant, hein. On est à 20h.
Et le dimanche.
Et le dimanche.
La version dominicale, avant le retour des Grignoux au moins une fois par mois, nous ont-ils dit.
On voit que c'était des créatures de la nuit.
Ouais. Vous dites ça à cause des bouteilles qui traînent dans le studio.
J'ai aucun avis là-dessus, nos commentaires. Ce qui se passe dans le studio reste dans le studio.
L'odeur persistante.
Merci Roger de me passer le verre, voilà. C'est sympathique, de nos auditeurs savent tout. Oh, bah oui, on boit de la limonade le soir, faut tenir.
Alors voilà, donc une émission bourrée de bandes dessinées, encore une fois. Pas d'interview, c'est pour très bientôt, on prépare activement... Quai des Bulles, hein, je rappelle Quai des Bulles le dernier week-end d'octobre, le moment, the place to be, le moment à ne pas rater pour tous les amateurs de bande dessinée.
C'est à Saint-Malo, c'est pas loin, faut en profiter.
Ouais, c'est pas loin, c'est pas cher, le site est magnifique parce que c'est quand même le long du sillon, non pas du Talbert mais du sillon tout court, et c'est très très sympa, il y a une buvette.
Ouais.
Il y a une buvette et on pourra même...
Se croiser
et on boira un coup avec vous.
Sans problème. Aujourd'hui donc des news et des chroniques et puis un peu de musique et on va y partir tout de suite.
Voilà, allez, comme c'est la période des festivals, il y a plein de sorties, il faut qu'on en parle.
Ouais. Sometimes you gotta flash and flash. You niggas don't know where this shit started. Y'all know where it came from. I'm saying we're gonna take our back to the source. Good knowledge. Yeah. When the MCs came, tell it about their names. And to perform, some had to smoke cocaine to act the same. With the poor heat rocking on that one, with the mental plane to spark the brain. With the building to be born, build rhythms up to the traction to what you got. Sick of it, state niggas get flipped in mic fights. I swing swords and cut clowns. Shit is too swift to bite, you record and write it down. I flow like the blood on a murder scene. Syringe on some wild out shit to insert a fame. But it was your walk the shop, stolen art, catch a swollen heart from not rolling smart. I put mad pressure on phony whack rhymes to get hurt. Sits played like zodiac signs of sweatshirt. That's minimum and feminine like sandals. My minimum table stacks the verse on a gamble. Energy is felt once the cards are dealt with the impact of roundhouse kicks from black belts that attack. The mic bones like cyclones or typhoons. I represent from midnight to high noon. I don't waste ink, nigga, I think I drop megaton bombs more fast than your blink. Cause rhyme thoughts travel at a tremendous speed through clouds of smoke of natural blends of weed. Only under one circumstance, if I'm blunted, turn that shit up, my clan in the front wanted. Now when the MCs came to live out their name, and to perform, some had to snort cocaine to the act the same. For me rocking on that one with the mental plane, just to spark the brain. With the building to be born, yo, the rhythm of the track. With the what? I'm on a mission that niggas say is impossible. But when I swing my swords, they all choppable. I be the body dropper, the heartbeat stopper. Child educator plus head amputator. Cause niggas styles are old like Mark 5 sneakers. Lyrics are weak like clock radio speakers. Don't even stop at my station and attack while your plan fell with the rep like Amtrak. What the fuck for? Damn, my law, make law. I be justice. I sentence that ass 2 to 4. Ram the clock to that state pen time. Check it. But the pins I'll be sticking with, you can't state the crime. Came through with the wool, slid off on the DL. I'm low key like seashells, I rock these bells. Now come aboard, it's Medina bound into the chamber. And it's a whole different sound, it's a wide entrance. Small exit like a funnel, so deep it's picked up on radios and tunnels. Niggas are fascinated how the shit begin. Get vaccinated, my logo is branded in your skin. When the MCs came to live out the name, chica and to perform some had to snort cocaine to act the same. Before he rocked it on that arm with the mental plane, just to spark the brain with the building to be born. Yo, rhythm hit the track. What the fuck is it? The form of the to
tout droit sorti de Shaolin, le Jiza, avec Liquid Sword, j'espère que vous avez reconnu. Alors, vous avez des news, je parie que vous avez des news, parce que je vois que vous avez sorti votre réservoir à news, en fait, votre grosse pochette.
Ouais, je vous aimais bien quand je sors ma grosse pochette.
C'est toujours signe de...
Hein? C'est d'abord un cri, un cri...
Un cri du cœur.
Ouais, un cri du cœur, un cri d'alarme, parce qu'il y a des gens que nous aimons tout particulièrement bien, parce qu'ils ont su reconnaître le travail de Plume et Pinceau en nous couvrant de cadeaux somptueux, comme des briquets. Je veux parler ici des éditions Roukmout. Édition Roukmout, donc je vous parle à longueur de semaine, j'ai toujours au moins une nouveauté chez Roukmout. Et justement, j'en ai une aujourd'hui dont je compte vous parler, de Monsieur El Diablo, Bonjour Vieillesse, chronique d'un quadra vénère.
C'est vrai que j'ai l'impression qu'on parle quasiment à chaque émission de ce monsieur-là, particulièrement El Diablo, je crois qu'on en a déjà parlé la semaine dernière.
El Diablo, on va
revenir. Il est partout.
Le problème, c'est que c'est pas un problème, bien au contraire. Enfin, il est édité chez Roukmout, mais c'est le Roukmout qui nous pose problème, puisque l'article que j'ai chopé sur Internet nous annonce que s'inquiète sur les possibilités des éditions Roukmout de fêter ses 10 ans. Et ouais, la situation économique de la maison d'édition est mauvaise, au point que tenir bon jusqu'en 2016, année des 10 ans, paraît improbable.
Oh merde.
Et ouais, Et pourtant, comment les éditions Roukmout défendent un modèle économique singulier, c'est-à-dire avec des préventes, même si le montant des reçus par les préventes n'est pas énorme, elles sont surtout, si vous voulez, un avantage pour communiquer en amont sur la sortie des bouquins. Mmh. Aussi, le directeur des éditions Roukmout appelle à l'aide les libraires pour que les libraires accordent une plus large place à son catalogue. Ouais. Et il nous dit, et alors en plus, comme il y a beaucoup de gens des éditions Roukmout qu'on a reçus, hein, on a reçu Monsieur Pixel Vengeur, on a reçu naturellement comment il s'appelle Monsieur Bernstein.
Ah, que des gars bien, hein.
Ben oui, des gens qui ont gagné le prix
des Charlie Schlingot et tout,
voilà,
ça.
Voilà, on a reçu, on a interviewé
Monsieur Houssin,
Monsieur Besseron avec Zozo le clown qui avait remporté l'obtention du prix Schlingot.
L'inénarrable.
Voilà, moi j'ai beaucoup d'amitié et d'empathie pour les éditions Roukmout qui ont vraiment un catalogue formidable pour qui effectivement aime la BD, un peu, je vais pas dire underground parce que Monsieur El Diablo
est... Si, c'est un underground.
Ouais, il y a un peu côté underground, mais bon, les publications sont luxueuses, les gens sont connus par ailleurs, hein, Monsieur Bernstein co-signe des dizaines de scénarios, Monsieur Laurent Houssan est très actif aussi, donc on a effectivement un catalogue terrible. Et justement, ça craint. Alors, mourir plutôt crever, pour reprendre les mots de Ciné, le fondateur et gérant des éditions Roukmout appelle à l'aide au soutien auprès des libraires et comment qu'il leur demande de passer commande directement auprès d'eux, donc les éditions Roukmout, des bandes dessinées à poster une collection où nous sommes en autodiffusion et en autodistribution. Ils offriront des présentoirs aux libraires, voilà. 5 exemplaires d'une même BD à plier, acheter un 6e exemplaire offert. Putain, c'est pas... Et peut-être même un briquet. Voilà. En tout cas, c'est bien moche. Roukmout est effectivement dans la mouise. Je vous donnerai le lien d'un excellent dessin de Monsieur Soulcier, qui a été publié aussi aux éditions Roukmout, un redoutable dessinateur de presse, entre autres, mais pas que. Si, dessinateur de BD. Et il a fait un super joli dessin où on voit une dame qui veut bien
aider.
Votre
manière de dire joli m'inquiète.
Mais si, parce que on voit un gros barbu roux, ça devrait vous plaire, un gros barbu roux qui fait des yeux de chat, vous savez, yeux à la Shrek. Il est entouré de petits chats et puis il tient ses livres et on voit une dame en face qui dit les chats et les bouquins je prends, mais le gros roux il reste là. Voilà, soutenons les éditions Roukmout si on veut effectivement éviter le diktat, parce que la bande dessinée c'est comme tout, hein. À partir du moment où ça commence à ramener, où ça commence à être de plus en plus reconnu, hein, c'est quand même le gros secteur d'édition, notamment en France, ça se concentre, les requins achètent les petits, les gros dévorent les petits. On est dans une forme de concentration capitalistique, hein, ne rêvons pas, la bande dessinée n'y échappe pas. Et les éditions Moukmout risquent d'en être la victime, d'autant qu'en plus, faut quand même rappeler qu'on parle d'un nombre bientôt incalculable de sorties tous les ans. Donc si Moukmout n'a pas un beau présentoir, comment voulez-vous qu'on les retrouve, quoi ?
Oui, c'est ça, c'est ce qui est en jeu aussi, notamment tu le vois à travers la demande qu'ils font aux éditeurs, enfin aux libraires, c'est-à-dire d'être plus exposés. Tu vois bien que c'est effectivement occuper la surface du magasin pour se faire voir et déclencher un potentiel achat. Ah. Et il y a une telle production que quand tu rentres dans une librairie, hein, on taira le nom, etc. Mais il y en a partout des livres, quoi.
Ah, c'est clair.
Et pour émerger et être repéré, soit il faut avoir eu des articles. Voilà, c'est là où, à la limite, nous, on joue un petit rôle. Soit que tu as une certaine déjà notoriété, et donc tu vas être en exergue, comme on dit, dans le présentoir, dans les coups de cœur.
Mais et du coup, mais je pense que malheureusement, en plus, il n'y a certainement pas que les éditions Roukmout.
Non, je pense qu'il n'y a pas que.
Et ça craint un peu du cul pour les petits éditeurs. Alors, justement, les petits, eux, ils ont du mal avec des catalogues de qualité. Et par contre, ironie, c'est ballot. Mais je vous avais dit,
C'est ballot.
Ouais, la rubrique, c'est ballot. En fait, Marvel et DC Comics n'ouvrent pas leur courrier.
Comment tu sais ça ?
Eh ben, enfin, on se demande, c'est la question que se pose l'auteur de l'article d'actualité, article d'un excellent journal dans lequel j'ai piqué cet article.
Tu veux dire que quand j'écrivais à Stan Lee, quand j'étais petit au collège, il les a jamais eus ?
Ah, Stan Lee, peut-être. Moi, je vous parle des responsables commerciaux des boîtes. Ouais. Marvel et DC Comics, parce qu'il y avait un problème de droit. Alors, aux États-Unis, tout est sujet à droit.
Very complicated.
Very complicated. Mais pour vous la faire simple, en fait, comme je vous disais la semaine dernière avec Mickey à quatre doigts dans Steamboat, pouf, là on va pouvoir le réutiliser, faire des t-shirts, on vous l'a dit, hein, chers auditrices, auditeurs, vous voulez vous faire du pognon, reprenez toute l'iconographie de Mickey, c'est gratuit.
Puis vas-y, hein, rends.
Et Nick Mickey, fuck Mickey, et là c'est rigolo. Et là c'est Marvel et DC Comics qui n'ont pas fait gaffe à la relance de l'administration des droits. En clair, la propriété intellectuelle sur le terme de super-héros, eh ben, ils l'ont laissé passer. Ils l'ont laissé passer. Et une autre boîte, du coup, a commencé à publier, à réutiliser du terme super-héros. Alors, naturellement, là, les avocats de Marvel et DC Comics se sont réveillés. De quoi? Et le petit, il a dit, haha, t'avais pas ouvert ton courrier, panache.
Donc, c'est vraiment sur le terme, le mot super-héros que...
C'est que pour le mot super-héros.
C'est fou, parce que je pensais vraiment que ça, c'était un mot qui était vraiment dans le sac commun, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de super-héros maintenant qui existent.
Alors, attention, super-héros au singulier. Parce que Marvel et DC avaient déposé, à part la suite, les termes de super-héros au pluriel et super-vilain. Et super vilain, c'est toujours à eux. Ainsi que super héros au pluriel.
Ah bah du coup, t'es obligé de feinter. Un super, mais pas top top.
Si, il est héros, mais il est tout seul. Il peut pas avoir de potes, vous voyez. Parce que s'il a des potes, et ben là, Marvel et DC vous retombent sur le paletot. Merveille du capitalisme dans le monde de la BD et des droits y afférents.
Ce qui est drôle dans ce genre d'anecdote, c'est que t'imagines quelque part un petit fonctionnaire au fond d'une cave qui est en train qui gère les mots et qui j'ai trouvé une faille. Ah, c'est drôle.
C'est drôle. Je vais même vous donner le nom. J'ai retrouvé le monsieur qui a
découvert le poteau rose.
Ouais, il s'appelle S. G. Richard.
Faut pas lui en faire à lui.
Voilà. Et c'est lui avec sa boîte où il a publié, il a remporté son combat contre Goliath en demandant l'annulation de 4 marques déposées, dont Super Héros par les géants du comics auprès de l'United States Patents and Trademark Office.
Dans ta face.
Dans ta face d'ici.
Les Talking Heads, yes. New feeling.
I told
ago.
Les Talking Heads, bien évidemment, avec New Feeling.
Voilà.
Vous vouliez parler de la sortie d'un mensuel aussi, vous me dites.
Voilà, parce que y a parfois des mauvaises nouvelles, parfois des nouvelles plus rigolotes, comme tout à l'heure. Et puis, il y a quand même des bonnes nouvelles dans l'univers désolé du mensuel BD en kiox.
Ouais, il y a quelques moogs quand même.
Il y a Flutacial, il y a...
Non, mais il y a Atom aussi sur le manga et tout ça. Il y a quelques... Il y a de l'apparition quand même.
Ouais.
Il y a Bodoy, ça existe toujours, je crois. Non, il y a encore du titre. Bon. Mais celui-là, je sais pourquoi il vous tient à cœur.
Il me tient à cœur parce que, en hommage à Charlie Mensuel, eh bien, l'éditeur Vincent Bernière a décidé de relancer un magazine qui va s'appeler Charlotte Mensuel. Alors, pourquoi pas Charlie Mensuel en hommage en reprenant le titre? Et en fait, non, parce que compliqué avec l'acquisition des droits, etc., etc. Donc, du coup, ils ont décidé d'appeler ça Charlotte Mensuel. Et d'après, alors ça va sortir en octobre. Et j'ai déjà commencé à embêter mon marchand de journaux. Vous savez, Charlotte Mensuel. Et elle me dit avec un regard soupçonneux, rayon adulte. Ouais, faut pas faire trembler le rayonnage. Et je lui dis, non, madame, je suis quelqu'un de tout à fait sérieux.
Journaliste, madame.
Voilà. Ça doit être rangé à côté de Flux Glacial. Et là, j'avais pas vu le rayon, effectivement. Il y avait un rayon, il y a effectivement...
Mais vous l'avez trouvé?
Eh ben non, parce qu'il ne sort qu'en octobre.
Bah oui, il doit sortir, là, effectivement.
Voilà, ce que mon article ne précisait pas. C'est pour ça que je vous ai demandé de vérifier ce que vous avez fait avec beaucoup de gentillesse. Je vous en remercie.
Donc ça va être un gros magazine, 176 pages, j'ai vu, moi.
Ouais, avec un gros...
De la
gros...
BD partout.
Ouais, avec un gros sommaire. Alors, des reprises de Charles M. Schulz, les Peanuts, parce que dans le Charlie Mensuel, le tout premier Charlie Mensuel de Wolinski, Wolinski adorait le travail de Schulz. Il y aura du... On va retrouver du Reiser, on va trouver Wolinski, on va trouver du Cabu, Cavana, GB, le professeur Choron.
On va retrouver de l'ancien et puis il y a du moderne aussi.
Voilà. Et puis, Crépax, Moebius, Buzzelli, comment pour les plus pointus d'entre nous. Mais il y aura également des nouveaux Florent Rupert. Alors, il va y avoir des gens qui sont un petit peu, comment on va dire,
marge.
On va dire qu'ils sont sur le tribunal médiatique, ils sont sur la liste rouge. Je veux citer le crapoteux Welbeck. Ou bien alors, le réprouvé Bastien Vivès qui rentre. Mais également Florent Rupert qui lui aussi a eu de nombreuses accusatrices.
C'est marrant du coup que ça soit Charlotte Mensuel, Charlotte, parce que effectivement ça te fait penser à une féminisation du truc, enfin ce qui est dans l'air du temps, et de les trouver là, c'est vrai que ça fait bizarre. Il y a comme un grain de sable dans le plat.
Ouais. Et il y aura également Jomat décédé, dont on a parlé récemment, dont on a parlé l'année dernière.
Ouais, mais lui il était clean. Enfin, Il n'a pas été accusé. Il était plutôt Kleenex.
Il était Kleenex. Il le revendiquait. Il était même.
Il l'assumait. Il trompait personne.
Voilà. Et il disait même qu'il était un champion.
Ouais. Il y aura Chris Ware aussi. Non, ça a l'air bien.
Ouais, c'est Chris Ware qui fait la couverture.
Ouais. Florence Sestak. Vince Luce, moi j'ai même vu. Apparemment. Ouais,
oui, oui, tout à fait. Vince Luce. Donc, il ne faut pas rater Charlotte, si je peux me permettre. Il ne faut pas rater Charlotte. Il y aura à boire et à manger. Nul doute que, comment tous les censeurs du web, qu'ils soient catho ou même de gauche, hein, on a vu que parfois, la mère Chikirou ou Chirikou, à chaque fois, je me gourre lorsqu'elle avait allumé la mère, comment
pauvre
la dessinatrice Coco,
ouais.
A montré comme que la bêtise était effectivement quelque chose de très bien partagé entre l'extrême droite et l'extrême gauche, parfois.
Ouais. Bon.
Eh bien, voilà, donc une bonne nouvelle.
Donc allez dans, pas chez vos libraires, mais chez vos
marchands de journaux. Voilà, et vous dites bien, ce n'est pas rangé à côté de vieille et chaude et vieille, c'est avec, normalement, à côté de Flux Glacial. Voilà. Et je terminerai toutes ces nouvelles. On est quand même, vous savez que notre objectif, chez Plume et Pinceau, c'est de dire que puisque vous nous supportez à bavasser sur nos vieux papiers, sachez qu'on peut vous rendre riche. On vous a déjà rappelé que Mickey Steamboat, c'est pour vous, mes petits chats. Et maintenant...
Si tu te démerdes bien, tu peux même en faire un super-héros.
Voilà. Ah oui, et tu marques super-héros et c'est gratuit.
Super Mickey.
Ouais, merci Plume et Pinceau. Et dimanche, il va pleuvoir. Samedi, il va pleuvoir. Et ça tombe bien parce que ça fait longtemps que vous n'aviez pas été voir votre grand-mère. Enfin, vous allez aller voir son grenier, plus exactement.
Ouais.
Parce que est organisé très prochainement à la maison Tajan. La maison Tajan qui est expert en vente.
C'est à Rennes, ça ?
Non, vous rigolez, c'est à Paris.
Ah.
Mais on peut téléphoner et puis on peut...
Anonymement
leur proposer des pièces. Il va y avoir des ventes aux enchères. Alors, pourquoi ils sont rares ?
Acheteurs anonymes, alors.
Ah non, ouais, si vous êtes jamais, vous pouvez aller. Ça sera une vente officielle. Les bouquins, il y a des bouquins qui sont déjà exposés, etc. Mais imaginez que ce week-end, vous trouviez un ouvrage, un tirage de tête Tintin tiré à 500 exemplaires. Eh ben, si votre grand-tonton Gaspard, n'a pas dessiné des quéquettes dessus, vous pourrez en tirer entre 40 000 et 60 000 euros quand même.
Ouais, c'est pas mal, ouais.
Et
il y aura des belles pièces, en fait, c'est ça que tu veux dire.
Ouais, c'est ça, parce que malheureusement, même si vous faites
chauffer... On a le droit d'aller regarder.
Ouais, et puis même, alors peut-être qu'en faisant chauffer les pieds de votre grand-mère, elle pourra au moins vous choper un vieux Spirou, un vieux Vaillant. Et on vous préviendra pour les ventes de Spirou. Mais c'est vrai que ce qui en fait la valeur, si tant est fut qu'ils en aient une, c'est effectivement la rareté. Et l'article précise même un des rares de rares, c'est un Tintin dédicacé avec un envoi auprès d'un abbé. De l'abbé Valèze. L'abbé Valèze qui a formé idéologiquement sans doute le jeune
Hergé.
Et comment dirais-je il lui a un jour, le jeune Georges Rémy lui a dédicacé
un album. C'était lequel ? Vous savez ça ?
Non, je ne sais pas.
Je me demande. Celui en Afrique, parce qu'il y a des missionnaires.
Alors voilà. En tout cas, à ce jour, des vieux, vieux tirages de tête. Neuf, dos, tissu rouge, etc.
Mais ça, on le savait déjà, que Tintin, Astérix, il y avait quelques titres comme ça qui vendaient bien. Quoi.
Mais je crois qu'Hergé...
Multiluc, je pense que ça marche pas mal aussi.
Hergé, c'est encore plus cher, les albums.
Ouais, oui.
Parce qu'il n'y avait pas de tirage de tête pour Astérix. Tandis que là, il y avait Pilate d'eau toilée, etc. Dargaud a jamais fait d'eau toilée pour Astérix, donc du coup, mais bon voilà, en tout cas ça vous donnera l'occasion de voir votre grand-mère, elle vous fera un bon chocolat, vous n'aurez quand même pas perdu votre journée, vous aurez fait une bonne action.
Les Lambrini Girls, Company Culture, il y a du Idols là-dedans, moi je dis.
in company culture. Pretend that I know how to use a computer. Harassing the workplace, the caressing bitch face. When will I learn that they just do it better? Cause all men know best me. Yeah, human resources say I'm asking for it. Look over my shoulder, indecent exposure. My co-workers say I've got no sense of humour. Smile and ignore that. My boss wants to find me the wandering eyes at all times in the office. Day on the job looking hot, paying dumb. When will I learn that they just do it better? Michael, I don't want to suck you off on my lunch break. Company culture, pretend that I know how to use a computer. Harassed in the workplace, my cold resting bitch face. When will I learn that men just do it better? Let's have a fun in company culture. Pretend that I know how to use a computer. Harassed in the workplace, my cold resting bitch face. When will I learn that men just do it better?
Je crois qu'elle avait quelque chose à dire. Et elle l'a dit.
Et elle l'a fort bien dit.
Ouais, deux petites blondes anglaises très énervées. Mais quelle énergie, mon Dieu. On a Plume et Pinceau, c'est aussi une émission interactive. Hein, nous ne sommes pas dans notre tour d'ivoire. On a des lecteurs qui nous, et des lectrices qui nous écrivent. Souvent pour partager un coup de cœur. Et nous avons reçu le courrier, mon bon Roger.
Bien.
Le petit Jean. Jean H, dit Jeannot aussi, dit Jojo Lapin, nous a écrit pour nous proposer.
Vous,
alors,
vous allez tomber, vous. Il a quel âge, le Jean H?
Oh, 13 ans, grand max. Il est ptio, il a les joues toutes roses.
Moi, je ne connais personne.
Il nous a écrit pour nous proposer. Alors, c'est là où on se demande ce que font les parents. Est-ce que c'est normal qu'un gamin de cet âge-là lise du Julien Hervieux? Moi, j'ai un doute. Hein,
Le chien?
Non, l'autre, ah, connard. Oui, ouais. L'audio connard, c'était quand même le pseudo d'avant. Ouais, est-ce bien raisonnable?
Je préfère Julien Hervieux.
Oui, oui, oui. Je pense que lui aussi, il a voulu montrer qu'il avait changé un peu, qu'il avait grandi. Ouais. En fait, ce monsieur-là, on le connaît pour le petit théâtre des opérations. On l'avait rencontré avec son pote, monsieur le chien.
Très gentil, très sympa.
Ouais, très élégant, tous les deux.
Ouais.
Très dandy anglais, c'était très drôle comme interview. C'est l'auteur du petit théâtre des opérations que vous connaissez peut-être, et il a fait apparemment un album sur le sport, les folles anecdotes de l'histoire du sport. Plus vite, plus haut, plus sport. Et donc, le petit Jeannot, dit Jojo, nous écrit...
Dit aussi.
J'ai beaucoup aimé cette BD, car elle parlait de célébrités et de leur sport. Cette BD était représentée sous forme de petites histoires, où était l'histoire d'une célébrité et de son sport, et de ce qu'elle avait accompli. Ma préférée histoire était donc celle de Roland Garros. Nous dit-il, Roland Garros, maintenant il est connu pour un grand tournoi de tennis, alors qu'il n'avait rien à voir avec ce sport. C'est vrai que je m'imaginais que Roland Garros...
Ouais, c'est surtout l'inventeur de la mitrailleuse de l'axe central de l'hélice.
Et ça, c'est pas rien. C'était une personne atteinte d'une pneumonie, il nous dit, et qui a réussi à guérir grâce au sport et notamment au vélo. Le petit Jean a été impressionné par cette histoire. Roland était fan de sport de danger, donc un jour il a voulu essayer une sorte d'avion où pour décoller, dit-il, et avancer, il fallait pédaler. Ah bon, je savais pas ça. Ah là, c'est vraiment les débuts de l'aviation en fait.
Ah ben oui, Roland Garros, ouais.
Ok, tu vois, j'apprends plein de trucs en lisant ce truc de gamin. Donc, il était stupéfait du talent de cette personne. Il valait bien, tatata. En 14, la guerre éclate. À mon avis, c'est l'anecdote de la mitraillette, effectivement. Comme il était myope et qu'il ne pouvait pas piloter, il n'a pas été envoyé au service militaire. Ah ouais, il s'en est bien tiré. Mais il mourra quand même dans l'explosion de son appareil en 1914. Donc, apparemment, l'histoire de Roland Garros lui a beaucoup plu. Et donc, il recommande cette BD pour les fans de sport et pour ceux qui veulent connaître les anecdotes des célébrités. Et à la fin, il a oublié d'ajouter, ça, il faudrait que je lui en parle, vous êtes super. Ça, c'est voilà, dommage. Ouais. Le truc était bien, on sentait le Roland-Garros et tout, mais il n'y a pas le... The cherry on the cake.
Et chez qui? C'est chez Fluide.
C'est chez Fluide, ouais. Et moi, je suis quand même surpris qu'à son âge, les parents le laissent lire des choses comme ça.
C'est assez curieux, en fait, que ça se retrouve dans...
Je sais pas comment ça lui est arrivé dans les mains, ce bouquin.
Non, mais parce que c'est un album. Et puis comment...
Ouais, c'est bien.
Et en fait, ce qui se passe, c'est plus comment... c'est très intéressant, ça fait un peu histoire, donc, le pôle.
Ouais.
Et c'est assez...
Enfin, ce qu'il racontait, c'était très biographique, c'est rigolo.
Ouais, c'est curieux de retrouver ça dans Fluide Glacial. Voilà. Et ben moi, j'embraye aussi avec de l'histoire. Je rebondis sur de l'histoire avec La Française doit voter. Ce qui peut paraître un truc tout à fait normal, évident et banal, aujourd'hui. Eh bien, il faut quand même savoir que jusqu'en 1944, en France, c'était pas le cas. Et la France est distinguée par son obstination à refuser le droit de vote aux femmes. Et on est quand même parmi les derniers pays d'Europe à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Les Suisses s'étant encore montrés plus réactionnaires que nous. Je crois que c'est 72, les Suisses.
Il n'y avait pas eu les Grecs aussi ?
Alors, les Grecs, je ne sais plus. Mais en tout cas, les Françaises vont attendre énormément de temps pour voter. Et si elles ont fini par pouvoir le faire, c'est pas seulement parce qu'elles n'étaient pas toutes seules, mais c'est aussi grâce à l'énergie de certaines femmes comme Louise Weiss. La Française doit voter, les combats de Louise Weiss aux éditions Marabule, que nous devons à Marie Moinard et Marine Tumler. C'est pas des personnes que je connais beaucoup. Marine Tumler, elle est dessinatrice, mais apparemment c'est quand même sa première bande dessinée. Voilà. Ah. Et écoutez, c'est très très bien parce que ça peut paraître très didactique, très historique, un peu hagiographique dans le sens où effectivement le personnage de Louise Weiss est mis en avant, mais n'empêche que rappeler des choses, surtout au moment où on a quand même un ministre de l'Intérieur qui nous dit que l'état de droit n'est pas une obligation, eh bien rappeler que pour obtenir des droits comme pour les femmes, comme le droit de vote pour les femmes, il a fallu qu'elles se battent, et notamment pas contre l'Assemblée nationale, mais sous la Troisième République, les deux chambres, comme il y avait le Sénat, et la Chambre des députés, un peu comme chez nous, mais le système était un peu différent, qui faisait que les sénateurs pouvaient bloquer. Et à chaque fois que l'Assemblée nationale a voté majoritairement en faveur du droit de vote des femmes, à chaque fois, régulièrement, jusqu'à que les sénateurs partent prendre leur quartier d'hiver à Vichy en 1940, eh bien, ils ont toujours refusé obstinément aux femmes le droit de voter avec des arguments du genre « qui sait qui va repasser nos chaussettes, genre ?» Mais c'est vrai, et à tel point que Louise Weiss et son journal, vont distribuer des paires de chaussettes rapiécées aux sénateurs en disant, vous voyez, on sait encore rapiécer des chaussettes. C'est dire à quel point, effectivement, chez ces vieux crabes de politique, l'image de la femme était fortement, marquée. Voilà, marquée plus qu'à droite. Et donc, il va falloir, on voit à travers cet ouvrage chronologique, la façon dont les femmes se sont organisées et battues, et notamment elles vont faire appel à une pionnière comme Madame Pankhurst qui est
suffragette anglaise,
la patronne des suffragettes anglaises, et Madame Pankhurst va venir en France former les suffragettes françaises, et justement elle va leur dire que vous pouvez écrire les discours que vous voulez, ils en ont rien à battre, faut faire des actions. Alors, c'est vrai que les suffragettes anglaises, je dis pas encore une fois que c'est Madame Pankhurst qui l'a fait, parce que, elle n'a jamais été prise sur le fait, mais il y aura des maisons de lords hostiles au vote des femmes anglaises qui vont être purement et simplement incendiées ou plastiquées. Elles font le coup de main contre les bobbies, et la mère Pankhurst va leur dire... d'ailleurs, j'avais chroniqué un bouquin où racontais qu'effectivement, elles avaient même des judokates, elles avaient même un groupe d'action physique, quoi. quoi, les suffragettes anglaises. Et donc voilà, Madame Pankhurst va venir conseiller les Françaises et ça va donner des actions comme le fait de s'enchaîner, organiser des votes fictifs pendant les vraies élections, etc.
Et graphiquement, alors ça a l'air très coloré.
Ouais, c'est très pastel. On est dans le ton pastel avec pas mal de plans, des portraits. On sent que la dessinatrice a voulu vraiment donner un visage et rendre un visage à cette femme, Louise Weiss, dont le décès est assez récent, quelque part 1983. Donc c'est une dame qui va traverser pratiquement tout le XXe siècle, née en 1893. Elle sera également, et c'est affreux quoi, c'est une gamine élevée dans un milieu bourgeois qui va passer le bac en cachette de son père. Soutenue par sa mère, mais il fallait pas qu'elle dise à son père qu'elle avait eu le bac. C'est des trucs de dingo, quoi. Et voilà, voilà, la Française doit voter. N'oublions jamais que les combats qu'on gagne sont ceux qu'on a menés, d'une part, et ceux que l'on doit mener toujours, n'en déplaise à monsieur, comment il s'appelle le Vendéen dingo, là,
Retailleau.
Retailleau. Voilà, voilà.
Bonjour à Saint-Denis.
On n'est pas dans la merde. Marie Moinard et Marine Tumler, la Française doit voter, les combats de Louise Weiss aux éditions Marabule, que je connaissais pas.
Je vais, je dois avouer que j'ai pas grand chose à faire pour vous proposer cet album, parce que les auteurs et les titres parlent d'eux-mêmes. C'est une réédition. Les deux tueurs suivis de Mickey, un bel album, one shot, par Mezzo et Pyrrhus, reparaît chez Delcourt. Vous avez peut-être déjà eu le plaisir de lire ces deux albums, et si vous n'avez pas eu le plaisir de lire ces deux albums, eh ben, vous avez cette grande chance. Vous allez découvrir vraiment des récits noirs d'une force incroyable. Ce duo, il est hyper bon. Il a réalisé entre autres Les Désarmés, Le Roi des Mouches. Et là, c'est des récits plus courts, presque des nouvelles. Deux nouvelles de récits noirs qui vous sont proposées. Alors les deux tueurs, j'aime bien celle-là. C'est deux assassins, deux tueurs professionnels. Il y a un vieux bouc, un vieux et un jeune loup qui sont envoyés tous les deux sur un contrat. Et en fait, c'est ça part en couille parce que les deux types se supportent pas et ça va déraper quoi. Et c'est vraiment une histoire incroyable. Et puis l'autre, alors on est pareil avec deux gangsters plutôt dans le mode yakuza qui recrute Mickey, un convoyeur de fonds. Et puis il y a un braquage qui va mal se passer, évidemment. Tu vois, on est vraiment dans du polar très américain quelque part.
Alors j'aimerais que vous nous parliez un peu de la du dessin de c'est Monsieur Pyrrhus, hein, c'est bien ça. Hein.
Je dois t'avouer que ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble que je ne sais même plus vraiment.
C'est comme pour Laurel et Hardy, ouais, quel est le gros et quel est le maigre.
Tu vois, il faut que je réfléchisse. Ouais. Je crois que c'est Mezzo qui dessine, moi, parce qu'il me semble qu'il a. C'est pas lui qui a fait Kiss the Sky. Je crois que c'est lui qui a fait Kiss the Sky.
C'est votre ouvrage. Hein, c'est votre ouvrage. Hein. Vous devriez le savoir. Enfin,
mais
moi,
tu vois,
je dis.
En fait, tu sais même plus. Les dieux sont
j'aimerais
tellement.
J'aimerais bien que vous nous le décriviez parce que c'est quand même superbe. Moi, ça me fait peur.
Bah, c'est vraiment un dessin qui va chercher du côté des Américains. Moi, je dirais du Miller ou un petit peu aussi de l'italien avec les grands aplats noirs, quoi.
Je sais pas pourquoi.
Ça fait penser à du Burns et des trucs comme ça. Je parie pour toi.
Ouais.
Mais là, c'est du Burns, mais si tu veux, graphiquement, ça se rapproche de ça. Mais on est vraiment plutôt dans du gros polar. Moite, tu sais, des vieilles séries noires américaines du Jim Thompson, des choses comme ça. On est vraiment dans des histoires plutôt comme ça, ou un peu Tarantino si on veut pour le côté moderne. Alors que dans Burns, ce qui te fait peur, c'est la touche fantastique aussi, et
oui.
Puis maladie mentale un petit peu qu'il y a des fois.
Mais là, ce qui nous fait penser à Burns, c'est aussi le traitement des couleurs avec c'est magnifique, un traitement des couleurs. On nous avait expliqué, parce qu'il nous faut du temps, nous, pour comprendre, on est des chroniqueurs de BD, effectivement, comment les couleurs influaient sur l'émotion provoquée par le récit, et puis par le ce qu'elle renvoie, quoi, ce à quoi on les rattache. Et là, c'est comme, il traite ces couleurs comme beurre, je dirais.
Oui, il y a des violets, il y a des verts bleus, c'est nocturne
irréels,
un peu.
Des trucs irréels,
nocturne un peu, c'est des... Ouais, moi j'aime beaucoup, c'est très efficace. En tout cas, là, bon, voilà, deux récits, deux nouvelles, 120 pages de bonheur, moi je vous le dis. Les deux tueurs, donc suivi de Mickey, c'est paru chez Delcourt, hors collection. Mais vraiment, faut se précipiter là-dessus. Interview musicale,
Bel ouvrage avec format carré.
Oui.
Magnifique.
L'objet est beau aussi.
Ah ouais,
est sympa.
Super ouvrage.
Si dans la Bible, ça se glisse ça.
Ouais. Et si vous n'êtes pas un trouilleux comme Roger, ou une trouilleuse, que vous aimez le polar glauque, qui fiche un peu les pouettes quand même, et quand vous l'avez lu.
Parce qu'il y a du mauvais dedans, il y a du mauvais.
Mais
tu vois.
Ouais, et puis ça renvoie à la nature humaine. Ils ont toujours fait ça, et du coup, on n'arrive pas à s'identifier aux personnages parce qu'on n'a pas envie d'être les personnages. En même temps, ouais. on est, est-ce qu'on peut... Vous voyez, parfois, on peut témoigner de l'empathie pour le personnage. Là, c'est compliqué parce que eux-mêmes sont quand même très, très compliqués.
Mais ces deux histoires-là, ce qu'elles souhaitent, c'est cette montée en puissance. Tu sais, c'est, tu, vraiment, tu vois la poudre qui se consume et qui remonte vers le gros tonneau, tu vois. La tension monte à chaque fois, ces deux histoires. C'est vraiment très fort. Bah, de toute façon, ils ont eu quand même quelques prix qui viennent tant à prouver qu'ils savent nous foutre les pouettes et ressentir... la poudre.
Alors, rappelez-nous le titre.
Deux tueurs, suivi de Mickey Mickey, Meso, Pyrrhus, édition Delcourt, hors collection. Voilà. Interlude musical. The View, She's Sweet.
Your love till the gas runs out and the saints will smile grim. Oh, you could have fun till your teeth fall out, but you better not do it with him. She's sweet, but not for sure. She's sweeter than the jealous world. And she's sweet, but we won't keep her. We won't keep her for ourselves no more. You can rub the salt in your wounds, my love. There'll be money underneath your pillow. The gas was out and the states will smile grim. Oh, you could have fun till your teeth fall out, but you better not do it with him. She's sweet, but not for sure. She's sweeter than the jealous world. And she's sweet, but we won't keep her. But we won't keep her for ourselves no more.
Je crois qu'on appelle ça du rock and roll, il me semble. Hein.
Yes.
Je crois que c'est
yes,
ça. Ça doit être View, she's sweet.
Ça doit être Roger, ça.
Ben c'est, oui, c'est effectivement, c'est vous. ben je reste un peu dans l'idée de ma chronique précédente. Encore du récit policier, mais plus contemporain, cette fois avec du FBI, tu vois, avec on est plus dans l'héritage, allez, du Silence des Agneaux, une autre génération d'auteurs de récits noirs. La suprématie des Underbabous, de Emmanuel Moino. C'est un drôle de roman graphique qu'il nous propose. En fait, parce qu'il y a, deux récits qui se déroulent en même temps. T'as une espèce de récit autour d'une étude menée par des scientifiques qui ont observé une tribu de babouins. dans les années 78. Il s'appelait Robert Sapolsky et sa femme était avec lui, Lisa Cher Sapolsky. Ils ont étudié des coupes de babouins dans des réserves naturelles du Kenya et ils en ont fait des observations, notamment sur le rôle du mâle alpha, etc. Tu vois. Ils se sont intéressés aux pratiques sociales de ces tribus de singes. Et puis, il va y avoir d'abord eux et leur travail sur le babouin, et puis après, ça va glisser sur d'autres espèces, les bonobos par exemple, ou les chimpanzés. Et à chaque fois, on t'explique leur comportement et on le compare plus ou moins au comportement humain, et notamment dans les domaines de domination. Et puis le rapport masculin-féminin, est-ce que c'est les mâles alpha, est-ce qu'il y a des femmes alpha, comment ça se passe, etc. La hiérarchie. Enfin, à chaque fois, tu as cette espèce d'étude donc naturaliste sur qui t'est racontée. Et puis en même temps, donc tu vas suivre une enquête policière. Mené par deux agents du FBI, un Black et puis surtout Colleen Thompson, c'est elle l'héroïne, c'est une nana qui est de raisonnement, très libre, très indépendante, très sexuellement mangeuse, d'homme un petit peu, séductrice, qui sait ce qu'elle veut, elle est douée dans le métier, etc. Elle a un côté, vraiment agent du FBI, très efficace, elle est même un peu irritante, quoi. Y a une espèce de froideur en elle.
C'est une créature à la James Bond, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est marrant, c'est les clichés un petit peu James Bond de qui lui sont collés. Bon, c'est marrant, ce truc-là. Qui va enquêter. Alors, l'idée, c'est qu'il y a une série de meurtres qui va être découvert. Et on s'aperçoit que c'est toujours des personnages, on va dire, un célèbre avocat, mais qui a été mêlé à des scandales sexuels et financiers, un prédicateur, une femme aussi républicaine avec des idées bien rétrogrades. Ça se passe aux États-Unis.
Donc, Sarah Palin.
Ouais, une espèce de Sarah Palin. Toi. Ils vont tous être victimes, assassinés. Et souvent il y a des témoins et c'est des témoins féminins qui sont épargnés. C'est vraiment eux qui sont tués. Donc ils se demandent si c'est pas une femme qui exercerait une vengeance contre des prédateurs sexuels et tout ça. Ça part sur cette idée-là et ça va être l'enquête qui va être faite. Vont interférer quelques personnages secondaires, notamment une espèce de d'étudiant raté américain qui s'offre sur internet comme tueur à gages à louer. Qui va être mêlé à l'histoire. C'est vraiment une chronique aussi des États-Unis qui n'est pas glop-glop, faut bien l'avouer.
Alors c'est Monsieur Moineau, c'est pas un perdreau de l'année.
Non.
Il a fait plein de choses, Monsieur Moineau. Est-ce que vous pouvez nous me rafraîchir
Alors, si je me trompe pas, il n'a pas fait Solo. Non, c'est pas lui. Ah oui, Cal crève la charogne, voilà, j'avais noté ça. Cal crève la charogne, Bonne fête maman, À quoi tu penses, L'homme qui a assassiné la vie. Il avait fait aussi la reprise de Nestor Burma, si je me trompe pas.
Oui, il est toujours dans le polar, hein, monsieur.
Ouais. Il avait effectivement repris le personnage de Tardy. Il a eu des prix, comment ça s'appelle, Fauve Polar SNCF, tu sais, il en a eu plusieurs. Ouais, c'est un mec qui vient du polar. Et là, il reprend une tradition de polar américain avec des agents
du
FBI.
Il est tout seul.
Ouais, il fait tout seul. Et c'est marrant, cette comparaison entre donc les scènes du récit et les moments d'analyse des sociologiques des groupes de singes, bonobos, chimpanzés, babouins, etc. C'est assez percutant. Je crois qu'on essaye de nous dire que l'homme, c'est le plus cruel des primates, en fait. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez réussi. Le dessin, c'est découpé. Alors c'est. On joue beaucoup sur les fonds de couleur pour faire des ambiances, bleu, rouge, etc. Une couleur dominante, et puis un trait noir assez charbonneux. Le personnage, là, je le trouve très réussi, le frappadingue, là, le jeune lycéen là, qui s'offre en tueur à gages sur Internet. C'est vraiment très réussi. La suprématie des Under Baboons de Monsieur Moineau, ça paraît chez Glénat. Et si le singe donc était le pire des primates, c'était l'homme, ça serait intéressant. C'est dans la collection Millefeuille. Voili, voilo pour moui.
Alors, moi, je vais rester dans l'héroïne quelque part, non pas ce que vous vous mettez dans le nez parfois lorsque vous désespérez, lorsque vous êtes en crise, mais tout simplement d'une héroïne, l'histoire vraie d'un cow-boy transgenre. Une histoire totalement dingo que nous racontent Stéphane Tamayon et Priscilla. Je sais pas pourquoi j'ai Priscilla. Priscilla. Orwiller.
C'est une biographie?
Ouais, donc c'est la troisième bande dessinée. C'est un truc de dingo. Alors on découvre, j'allais dire un monsieur, mais c'est marrant parce que dans la bio qu'il y a dans la jaquette du bouquin, on nous dit, voilà, Harry Allen vient au monde le 11 septembre 1882 sous le nom de Nell Pickrell, une enfant de sexe féminin. Son certificat de décès indique la date du 27 décembre 1922. Une vie courte, intense, 40 années durant lesquelles Harry se distingue autant par son épais casier judiciaire que par la cinquantaine d'articles qui lui consacrent les journaux de la région de Seattle. Fasciné par le personnage, les quotidiens le surnomment affectueusement Harry ou notre Nelly, etc., etc. Et c'est ce qui a permis donc à Stéphane Tabaillon, pardon, qui est prof d'histoire, par ailleurs. Eh oui, on les traite de feignasses, mais ça bosse, par ailleurs, les profs, quand même. Hein. Et il a écrit, il a, en collaboration avec Priscilla, donc Orwiller au dessin, là, ils ont raconté la vie de ce personnage. Mais alors, c'est dingo, quoi, parce que, donc, la pauvre gosse, maman boit, papa tape.
Ouais, voyez, c'est sûr que là, tu te dis, ouais.
Donc voilà, elle va se barrer. Donc elle va se barrer, et à partir du moment où elle va se barrer, elle va décider de se présenter comme un homme. Donc elle va devenir, il va devenir tour à tour barman, croupier, barbier, trafiquant d'alcool, voleur de chevaux, proxénète. Ouais. Bandit de grand chemin, et il se distingue autant par son épais casier judiciaire que par un espèce de cœur d'acier. Faut vous noter quand même que trois femmes se suicideront pour elle ou pour lui.
Oh.
Et il ou elle est sans pitié. Vous savez, il y a l'histoire de la Calamity Jane, vous savez, comment fort bien racontée, enfin, dont j'adore, moi, la vision de Lucky Luke, qui est une nana sympa, un peu russe, qui crache et qui boit des coups, mais ça se limite ça. Là, non, la vraie Calamity Jane, pour moi, c'est elle, quoi. C'est effectivement ce personnage de Nell Pickrell, alias Harry Allen. Et on va voir tout au long de cette bande dessinée, eh bien, à travers des flashbacks, l'histoire de ce personnage, alors j'allais dire, pas seulement transgenre, mais totalement hors norme. En plus, il est pas cool, quoi. Il ou elle, pas cool. Ou Yel, je sais pas comment on peut l'appeler.
Ouais.
Il est pas cool, quand on voit à un moment donné, il est dans la merde. Il lève une petite qui est serveuse dans un bistrot. Il couche avec. Le lendemain, il regarde, il fouille son tiroir, il lui bourre la gueule. Et puis, comment dirais-je, il s'en va avec la caisse, quoi. Au revoir, ma chérie, bonne nuit, point. Il est sans pitié. Il va être jugé à plusieurs reprises. Quand ça l'arrange de mettre son sexe féminin en avance, il le met en avant, ce qui fait que les juges ne peuvent pas condamner quelqu'un qui pensait être un homme alors que c'est une femme. Elle monte ses nichons en plein tribunal.
Ouais.
C'est un truc de dingue. Et pour servir ça, Priscilla Orwiller, comment un dessin que je pourrais... Alors, je sais pas, ça m'avait pensé un peu à du Zanzim. Vous voyez un peu l'école dans les années 2000 qu'il y avait un peu cette... Donc, des décors pas très développé. Non, mais c'est vrai, on n'est pas dans le décor.
Non.
Mais j'adore sa façon de faire bouger ses personnages. Regardez, quand il y a des bagarres, les bagarres sont super bien rendues.
Il y a un côté burlesque. Hein.
Voilà, on se croirait un peu. Et en fait, elle est quand même morte, elle est morte en 22. En 22, c'était presque le cinéma parlant, quoi. C'est vraiment la fin du western, quoi. C'est un des derniers outlaws, c'est ce personnage-là. Et je ne sais pas s'ils seront à Saint-Malo, à Quai des Bulles, mais j'aimerais bien. En plus, c'est une nouvelle maison d'édition. Mais c'est marrant, ça fait deux fois que je... Marabule s'appelle. Allez, je vous rassure, ils ne m'ont pas encore filé de briquet, je vais vous me regarder sous pseudo.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais ils ont un bon catalogue,
contre,
voilà, j'achète.
C'était celui sur les Simone Weil, c'est tout ça, là.
Ouais, c'était Marabule aussi.
Louise Weil, pardon.
Louise Weil.
Oui, mais ils ont l'air d'avoir un catalogue très engagé, c'est intéressant.
Et là, effectivement, vous avez raison, je cherchais le mot, les bagarres, c'est du burlesque. Alors on la voit, vous avez vu les coins de Monty Python.
Oui, mais parce que aussi les looks des flics et tout ça,
ouais,
tu
vois un vieux film.
Un vieux slapstick,
on appelait ça, ou c'est les bagarres.
Tu vois les trois stouches, tu vois des conneries comme ça, quoi.
Voilà, c'est fabuleux, super bien, ça se lit d'une traite parce que et on a du mal à croire, quoi. Et je vous avouerai,
c'est intéressant à voir ça.
Et je vous avouerai que bon, j'ai vu ça sur la jaquette, mais je dis après j'ai fouillé et j'ai effectivement retrouvé trace de ce ou cette héroïne. à mon sens, la véritable Calamity Jane de l'Ouest.
La mauvaise.
Ah ouais, purée, non mais c'était un peu genre, ouais, elle se mêle la mort et le désespoir autour d'elle, mais en fait, à sa décharge, elle en avait toujours pris plein la gueule. Elle a été violée, peut-être même déjà par son père toute petite, enfin c'était, ouais, vous voyez, d'où peut-être aussi son désir de passer pour un mec, parce que plein le cul de souffrir, quoi. Elle est, il n'y a pas de jugement en plus, elle est, les auteurs prennent grand soin de ne pas la juger, il raconte des étapes de sa vie, elle a des moments de flashback comme ça, totalement halluciné, parce que, bah, vous savez bien, qui mène une mauvaise vie mourra d'une mauvaise mort, et bah, elle va choper la tuberculose, elle va choper plein de merde, etc., et elle va mourir très très tôt.
C'est bien, voilà. Or, ça a l'air bien, ouais.
Ouais, ouais, hors la loi, histoire vraie d'un cow-boy, excusez-moi, d'un cow-boy transgenre, aux éditions Marabule de Stéphane Tamayon au scénario, et Pritchi, je sais pas, j'ai du mal à lire Pritchi, comment vous dites Pritchi là, vous
Pritchi là.
Eh ben c'est dur à dire, on va l'appeler Prissy, Prissy Horviller, qui s'est, ouais, ouais, c'est super bien. Elle s'est super bien emparée de cette histoire-là, très dynamique, et en même temps, nom de Dieu.
Fairy Baby nous interprète Rosalia. Fairy Baby, le morceau s'appelle Rosalia. Retour, pouf, en 82, moi j'ai envie de te dire. De toute façon, les années 80 reviennent, il paraît que Cure va sortir un nouvel album enfin. Il y a 16 ans, ça fait 16 ans qu'on attendait un nouvel album, c'est cool. Tu t'en fous complètement.
C'est pas que je m'en fous, mais
j'ai c'est
vu,
pas ta cam.
J'ai vu, non, j'aimais bien Cure quand j'avais encore des cheveux, mais j'ai vu une image. En plus, vous êtes un fan, un spécialiste, et j'ai vu une image du chanteur de Cure.
Qui sommes-nous ici réunis dans cette EHPAD pour critiquer le physique de Robert Smith? Qui sommes-nous dans cette EHPAD?
Pourquoi il est tout gonflé comme ça? Il est tout gonflé. On dirait qu'il se pique comme à l'hélium. C'est incroyable. Il va finir pire. Que comment il s'appelait Elvis Presley, c'est le beurre de cacahuète, je sais pas, mais.
Oh mon Dieu. Bon, enfin bref. Un drôle de récit que nous offre Oscar Martin. Si... Tout à l'heure, je pensais à Solo, mais en fait, c'est à Oscar Martin que je pensais. La série Solo, je sais pas si vous vous souvenez de ça, une espèce de saga fantastique avec des personnages animaliers, anthropomorphisés, un truc un peu post-apocalyptique qui était sorti chez Delcourt. C'est le scénariste de cette excellente. Série donc qui se décline maintenant, ça s'appelait Solo, et il revient avec une espèce d'adaptation un peu étrange du Petit Chaperon Rouge. Alors c'est marrant comme il y a quoi, il y a des histoires qui finalement restent tout le temps là. C'est fou, hein, encore une version du Petit Chaperon Rouge. Alors cette fois, ça s'appelle Capuche Blanche. Donc ça se passe de nos jours. C'est l'histoire finalement d'une adolescente qui est vraiment dans une situation d'isolement très 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 poussée. Sa mère est partie, son père travaille beaucoup et il sort en plus tard le soir, etc. Il mène une vie, tu vois, de libéral libertin. Elle a des cours à domicile, elle a pas de copine, bon, elle a un téléphone quand même un petit peu pour regarder sur le net, mais bref, elle est dans l'isolement le plus total. Et la seule personne qu'elle aime et qui, chez qui elle ressent une réelle affection pour elle, c'est sa grand-mère, donc elle va chez sa grand-mère régulièrement. Et en allant chez sa grand-mère, elle va tomber sur un loup. Oh. Tu vois, c'est vraiment le Petit Chaperon Rouge. Et là, c'est là où l'histoire prend une dimension fantastique, parce qu'en fait, ça commence de manière très réaliste, tu vois. C'est une gamine qui est mal encadrée, enfin, qui est mal entourée, qui reçoit pas d'affection, parce que les temps modernes, quoi. Tu pars vraiment sur un truc très réaliste, et d'un seul coup, il y a ce loup qui apparaît, parce que en fait, il est blessé, il est au fond d'une espèce de grenier. Il s'est caché à la cave. D'un une espèce de hangar comme ça qui est perdu au milieu de la forêt et ils arrivent à parler ensemble, quoi. Ils parlent ensemble et puis lui il lui faut manger, quoi, ce loup, comme il est blessé au départ. Et donc elle va se lancer dans une relation avec ce loup. Elle va lui apporter d'abord de la viande, et puis à un moment il y aura un dérapage et ça sera finalement un chasseur, quoi, qu'elle aura tué. Elle est végétarienne. Tu vois, ça va se déraper. Et en fait, t'as l'impression que c'est fou. Tu te demandes même à un moment s'il faut vraiment voir dans ce loup un vrai loup. Tu sais pas si c'est pas une espèce de tueur en série qui exploite la gamine, quoi. Parce qu'elle se met à assassiner des gens, parce que le loup, quand elle lui fait manger de la viande humaine, il est encore plus en santé, quoi. Et elle est comme elle projette sur lui, en fait, tout le besoin d'amour qu'elle a, parce qu'il lui parle, il s'intéresse à elle, et puis elle sent qu'il a besoin d'elle. Donc elles se sont valorisées. Tu vois, t'as une espèce de relation hyper toxique qui apparaît. Donc ça devient l'histoire de cette relation. Et là, c'est le côté novateur par rapport au bon vieux conte du Petit Chaperon Rouge. Bref, la gamine se lance dans une série d'assassinats, de meurtres, quoi. Bon, alors que va-t-il arriver? Est-ce que la police ne va pas quand même découvrir ce truc? Voilà, on nous offre une petite nouvelle comme ça, plutôt intéressante. Et alors, je dois avouer qu'il y a un très beau dessin. Moi, j'aime beaucoup le dessin de Ta. Alors que je connaissais pas trop, mais j'aime surtout son travail sur les couleurs et sur la nature. La nature est vraiment belle parce que ça se passe vraiment au milieu de la forêt. Et elle a quelque chose dans le jeu des couleurs qui accompagne bien les périodes et le temps. Alors regardez, Roger, à un moment, elle veut te faire un passage rapide du temps, quatre vignettes et qui correspondent.
Printemps, été, automne, hiver.
Ouais, tu vois le même arbre et tout ça. Et t'as vu, ouais. Magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment, au niveau des couleurs, il y a quelque chose de très puissant. Les hivers sont vraiment froids, la neige est là, et quand c'est l'été, et ben le vert resplendit, c'est excellent. Il y a vraiment des trouvailles sur les couleurs. Par exemple, la doudoune blanche, au fur et à mesure que la gamine s'enfonce dans le crime, elle est tachée de sang et elle vire au rouge, et là tu vois apparaître le Petit Chaperon Rouge, tu vois. C'est vraiment un récit atypique, parce que c'est assez bavard, dans le sens où t'as beaucoup de récitatifs. T'es beaucoup dans la tête de la gamine, ou en tout cas d'un narrateur qui la suit. Et les seules phases vraiment dialoguées, les seuls échanges de paroles entre personnages, c'est elle et le loup. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un produit pensé intéressant sur le plan graphique et puis au niveau de cette relecture. Vraiment un très très chouette truc. Ça s'appelle Capuche Blanche. C'est donc sorti chez Delcourt. Un récit complet par Oscar Martin et Ta au dessin. Et le format est rigolo parce que il est tout petit. Je c'est du DE 30, c'est pour te dire, tu vois le truc, c'est beaucoup plus petit qu'une BD classique et que du comics.
Le dessin de Ta, il est très très élégant, il est très très fin, est magnifique.
C'est précis, et puis moi je te dis, là il y a un jeu sur les couleurs de la nature qui est vraiment hyper beau, quoi.
Mais encore une fois, on ne se refait pas, et comme je suis un dadétrouillard, j'ai feuilleté quand j'ai vu Rata et tout, ça m'intéresse et tout, puis j'ai vite compris de quoi il ressortait.
T'as eu peur du loup ?
Ouais, je me dis non. Déjà, vous savez, moi en ce moment, j'ai une chaîne où j'ai récupéré tout South Park, ça n'intéresse que moi, mais tous les soirs, je vais faire un tour à South Park, et j'y rencontre leurs potes, et déjà, rien que ça me fait faire des cauchemars la nuit, il y a un petit peu ce genre de bande dessiné, qui est magnifique au demeurant. Et encore une fois, ouais, le dessin exceptionnel de Tain que j'avais découvert. Ah, oh, Tain, elle dessinait dans le flux glacial, à mon avis. Ils ont...
Ah, c'est possible, ouais.
Il y a très longtemps.
Ouais, c'est possible. J'ai pas fait spécialement de recherche.
Ouais, c'est ce qu'on note un petit peu. C'est quand même le. Ouais, on note. Vous ne faites pas beaucoup de recherche.
J'ai voulu rester spontané dans ma chronique.
Ah, moi, j'appelle ça du foutage de gueule, mais bon, jugeront qui jugera.
L'histoire tranchera.
L'histoire tranchera. Tiens, justement, à propos d'histoire qui passe, de temps qui passe, bonjour vieillesse, par monsieur El Diablo, chronique d'un quadra vénère aux éditions Roukmout, dont je rappelle encore une fois que, à défaut d'être à l'agonie, les éditions Roukmout ont été plus vaillantes. Le roux a été plus flamboyant. Vous en savez quelque chose.
Je m'en doutais.
Mon bon plume. Ah. Et moi, j'aime bien les roues. On se refait pas, c'est comme ça. Et si vous voulez aider les éditions Roukmout, exigez de votre libraire.
Et pourquoi ?
Voilà. Genre la librairie dont on taira le nom. Vous les obligez. Vous pouvez les menacer. Nous, on sait où leurs gosses vont à l'école.
Oh.
Donc, voilà. Vous nous dites s'il veut pas. La librairie dont on taira le nom, maître d'édition Roukmout avec le présentoir magnifique des éditions Roukmout offert par les éditions Roukmout, c'est qu'il y a un problème.
On ira leur pourrir un après-midi, ouais. On ira là-bas et on parlera à tous les clients.
Voilà. Et
tout
on
le
va,
temps.
Et sinon, on leur pète les genoux. Bref, El Diablo, bonjour vieillesse. Alors, El Diablo, nous, on est d'une certaine génération, on n'est plus vraiment... Alors, Equine, parce que voilà, chronique d'un quadra vénère, Equine, El Diablo, parce qu'il a 40 ans. Je rigole.
Gamin.
Là où je rigole moins, c'est que lui, à 40 ans, il a fait ce que nous, il faudrait qu'on ait 120 ans pour le faire. Bref, ouais. Il a déjà, depuis, ses premières histoires ont été publiées dans Psychopathe dans les années 90, déjà. D'accord. On le considère comme à l'origine comme un graffiti artiste, mais dans l'espèce d'excellente petite bio qui accompagne chaque ouvrage des éditions Roukmout qui soigne ses auteurs, eh bien, on a une excellente bio de Monsieur El Diablo qui, après avoir été reconnu comme graffiti artiste, devient quelque part le dessinateur rap. Peur, on va dire, ou quelque part de la BD, si vous voulez, le représentant un petit peu, ou celui qui en représente plus le style. Voilà. Il a co-créé la série Lascar, diffusée entre 98 et 2008 sur Canal+, adaptée au cinéma en 2009 et dont les épisodes dépassaient 50 millions de vues. Co-auteur de la web-série Les Cassos, coproduite par Canal+. Bref, il n'arrête pas.
Ah oui, que des histoires de brillants et de réussite.
Ben oui, mais alors vous voyez, vous disiez, il leur faudrait peut-être une locomotive. Ils l'ont, les éditions Roukmout, la locomotive dont vous parliez avec Monsieur El Diablo.
Oui, c'est vrai.
Et enfin, en tout cas, dans le domaine.
C'est un peu un truc de niche quand même.
Vous n'arrêtez pas de me traiter de niche, mais comment dirais-je en fait, ce monsieur-là, alors peut-être que son travail dans l'animation...
En fait, tu sais, le problème, c'est que c'est de l'humour, en fait. Et l'humour, il y a plein de chapelles, il y a plein d'humour. C'est difficile de réunir vraiment beaucoup de monde sur l'humour. Ou alors, il faut des trucs quand même assez consensuels. Et puis, ce que tu aimes bien et ce que j'aime bien aussi chez Roukmout, c'est que c'est quand même un humour rentre-dedans, quoi.
Bah oui.
Et tu sais, de nos jours, tout le monde ne rit pas des mêmes choses, quoi.
Voir que les gens ne rient plus du tout.
Ouais.
Et ils sont
donc c'est pas facile de percer aussi. Roukmout, ils veulent faire de l'humour. C'est vrai qu'ils cochent toutes les cases, hein, au niveau respect des artistes, etc. Ils sont super, quoi. Mais ils aiment bien aussi un humour qu'on pourrait dire un peu potachien et qui nous va, quoi.
Alors, dans Bonjour Vieillesse, Monsieur El Diablo, chronique d'un quadra vénère, eh bien, nous raconte un peu, c'est bien parce que plein de choses que je ne connaissais pas sur ce monsieur, il nous parle de sa jeunesse.
Ça a l'air super bavard.
C'est très très bavard. C'est en rarement coloré, un petit peu avec quelques petites taches de couleur, mais autrement c'est noir et blanc. Et un peu rehaussé avec du rouge, du lavis orangé, un peu sur ses personnages. Et il raconte un petit peu des anecdotes de sa vie. Un truc qui m'avait fait marrer, il était comment... Vous savez, l'employé à l'aéroport qui vous dit de vous enlevez vos chaussures, vous les mettez. Et il tombe sur des connards, il tombe sur Depardieu, il tombe sur Sardou. Et quand Monsieur El Diablo, qui ne s'appelait pas encore El Diablo, il s'appelait Boris à l'époque. Ouais. Et il demande à M. Sardou d'enlever ses gants. Oui, mais je suis M. Sardou, je suis Michel Sardou, connard, et tout. Appelez-moi responsable, etc., etc. Bref, on découvre plein de d'anecdotes autour de M. El Diablo. Mais justement, pour les gens qui sont constipés de l'humour, il révèle enfin le caca express. Caca express, c'est emmerdant quand vous allez chez des gens et qu'il n'y a pas de PQ. Comment vous faites ? Eh bien, vous avez toujours un paquet de mouchoirs dans votre poche. Et ça vous sauve. Donc, c'est quand même des choses qui sont très, très importantes de savoir. Et à travers cette BD-là, il nous raconte son personnage. Les défauts, il met bien en avant. Oui, oui, tout le monde me dit que je me la joue. Mais c'est vrai que je me la joue, mais c'est normal, je suis le meilleur. Bref, il est, comment on est, dans l'autodérision. Il est un peu comment il raconte, comment il voit, comment il se sent, comment il est perçu par les autres. Il explique, quand il commence à expliquer qu'il va aller, comment dirais-je, au Canada, tout le monde lui dit, mais tu vas mourir là-bas et tout, c'est n'importe quoi, etc. Et ça fait quand même un paquet de temps qu'il est parti au Canada. Il est parti au milieu des années 2000, je crois.
Ah oui.
Il a 52 ans maintenant, et puis, et ça fait quand même, en 2003. Depuis 2003, donc ça fait déjà 21 ans qu'il est au pays du Caribou. On peut en découvrir quelques plans si on ne le connaît absolument pas. Il était publié chez Fluide à un moment donné quand on avait Monsieur Lindingre à la rédaction en chef. Mais vous savez, il en va des rédactions en chef comme de plein de choses. Ça va, ça vient. Et c'est vrai qu'effectivement, depuis que Monsieur Lindingre n'est plus à la rédaction en chef, eh bien, le contenu est un peu moins underground, un peu moins...
Quand vous dites ça, on a l'impression qu'il est mort.
Non, mais comment dirais-je, je ne sais pas si on lui a donné véritablement le choix, on ne va pas se mentir.
Ouais, ouais. Bah, en tout cas, il avait donné sa marque.
À
sa période, elle est vraiment clairement identifiable dans le récit collectif.
Voilà, c'est ça. Et ce que d'autres rédacteurs-chefs n'auront pas été capables de faire quelque part.
Exactement.
Bonjour vieillesse, monsieur El Diablo, chronique d'un quadra vénère aux éditions Roukmout.
Quelles éditions vous avez dit ?
Les éditions Roukmout, bien sûr.
Les excellentes éditions Roukmout.
Qui nous fileront même plus à briquet s'ils font faillite. Putain, c'est vraiment la loose.
Wild Rooster, flip, flop. And fly.
Jump on.
Ça, c'est ce qu'on appelle du rock'n'roll aussi.
Tout à fait.
Plus ancien. Il nous reste encore un petit peu de temps. Si ça compte, même si c'est un tome 2 que je vais vous chroniquer, ça compte. Apocalypse, tome 2.
Alors, est-ce que je peux voir les dessins?
Hop, regardez, hop, c'est là.
Chers auditrices, auditeurs, vous devez quand même savoir que la démarche de Plume et Pinceau, c'est quand même de veiller au plus près, à la qualité de nos émissions.
Allez-y.
Et donc, c'est intéressant que nous puissions discuter. Moi, je connais pas forcément les livres d'Erwan.
Si tu m'avais écouté le précédemment, tu saurais.
Et j'aurais aimé voir les dessins pour rebondir, mais bon, vous n'avez emmené que la fiche.
Ouais, j'ai fait qu'une fiche. Bah oui, mais c'est parce que vous m'aviez dit, j'ai plein de trucs à te donner, et vous me donnez 4 BD, il faut bien que je compte un petit peu. J'ai beaucoup déjà apprécié le tome 1 d'Apocalypse, et je l'ai déjà chroniqué. En fait, c'est une petite diablesse, voilà, qui ressemble à une petite fille, qui vit sur une île un peu fantastique, avec son papa, qui est bien évidemment le roi des enfers, puisque c'est Satan lui-même. Elle, c'est vraiment une petite fille, tu vois, elle voudrait un chien, elle veut des copains, etc. Et dans le premier tome, bah, tu découvrais ses histoires de famille, qu'elle est plutôt gentille, ce qui fait un peu le désespoir de son papa, qui lui, c'est quand même Satan. Et c'est des petites histoires drôles avec des amis qu'elle se fait, les autres adolescents de l'île. C'est très frais, moi je trouve ça très rigolo. Ça fait très collection de show. Et puis dans le dessin qui est tout pimpant, tu sens vraiment une influence de Toriyama. Moi j'ai revu un truc à la Dr. Slump en fait, et je trouvais ça très sympa. C'est donc des tas de petites histoires avec cette héroïne qui vit son adolescence, mais elle a une adolescence particulière, quoi. C'est la fille du diable. Là, c'est le tome 2. Elle va faire des nouvelles rencontres, un nouveau copain, un sirois. Je ne sais pas si on dit un sirois. On dit une sirène quand c'est une fille, mais quand c'est un petit garçon.
Un siréno,
voilà. Elle va avoir un nouveau copain, un siréno. On va découvrir qui c'est, comment il s'appelle, d'où il vient, pourquoi il a rejoint l'île d'Apocalypse. Et puis, tu vas surtout voir son oncle arriver. Parce que, si tu veux, là, dans cette histoire, dans cette série, dans cette saison d'Apocalypse, le truc, c'est que papa, il est tombé quand même plus ou moins amoureux d'une serveuse humaine qui tient le bar de l'île, quoi. Et donc, il fait pas bien son métier, d'où arriver du grand frère pour rétablir l'ordre. Et le grand frère, lui, il est vraiment pas cool, quoi. Donc, ça va être un peu la grande histoire de ce deuxième épisode des aventures d'Apocalypse. C'est toujours rigolo. Il y a un peu de prout, un peu de caca, 2-3 trucs comme ça. C'est hyper pimpant. Je vous dis, graphiquement, moi, ça me fait penser à du Dr. Slump. Vraiment, c'est la meilleure comparaison que j'ai. C'est plutôt très rigolo et très réussi. Moi, je pense que, par exemple, le petit Jeannot qui nous a écrit, je suis sûr que ça le ferait rire, ce genre d'histoire.
D'accord.
C'est très kawaii.
C'est qui l'auteur ?
Alors, l'auteur, attention, je dois remettre mes lunettes pour lire le nom. On a Romain Pujol au dessin et c'est Saïd Sassin au scénario. D'accord. Ils ont fait des trucs chez Wakfu, des albums chez Bambou, etc. Ils viennent un petit peu du manga,
et là, chez
Ankama. Et là, c'est chez Delcourt. C'est Glénat. C'est la collection de Cho, tu vois, j'avais même pas remarqué, c'est Glénat. Donc ça paraît chez Cho. Ben voilà, tout est dit en fait.
Alors, puisqu'on est dans la littérature jeunesse, est-ce que vous voulez voir mon gros Mickey? Je ne rigole pas.
Ton Mickey Mouse ?
Ouais, mon Mickey Mouse. Depuis la semaine dernière est sorti en presse, le tout dernier numéro du bimensuel, anciennement hebdomadaire, des 7-14 ans. À l'occasion des 90 ans du journal, l'éditeur unique Héritage Média a sorti le numéro 18 septembre sur 2024 de Mickey sous un format inédit. Un fascicule qui fait pratiquement 30/39, qui est géant pour un magazine, qui n'est pas sans rappeler le numéro 400 de Fluid Glacial en 2009. Je ne sais pas si vous l'avez, mais il est arrangeable.
Non, je crois pas que je l'ai.
Ah bah
justement, je l'avais acheté parce que je trouvais qu'il était arrangeable.
Ah, il est arrangeable, je vous confirme. Et donc, il sera en vente, le gros Mickey, pour la vente de 6,90 contre le petit Mickey. Et là, effectivement, pour les collectionneurs, il faut mieux prendre plutôt un Mickey Mouse.
Impeccable. Et bien, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons clore cette 486e émission de Plume et Pinceau version 2.0 XYZ, c'est-à-dire version rallongée, extended version. 1h30, merci encore au Greenou de nous offrir cette possibilité de jeu. N'hésitez pas à faire comme Jeannot, envoyez-nous des chroniques.
Mais surtout, vous écrivez. Vous ne venez pas en personne parce que je ne garantis rien.
C'est honteux, c'est honteux.
Non, moi je dis ça. Non, vous oui. l'avez appelé Jeannot, dit.
dit Jojo.
Dit Jojo et tout. Je sentais que vous, ça vous énervait.
Vous êtes immonde. Honte à vous, shame on you. Donc n'hésitez pas à nous envoyer quand même de vos chroniques. Vous trouverez l'adresse sur le blog. Sur le D-Blog, vous retrouverez tout, toutes les couvertures, les liens vers les albums chroniqués et aussi vers la playlist musicale variée et ô combien énergisante que vous offre Plume et Pinceau. À la semaine prochaine encore, bientôt l'émission des Grignoux. Est-ce que ça avance? Vous avez
oui,
déjà une date?
Oui, ça avance.
Ok, c'est programmé.
C'est programmé.
Everything is under control.
Voilà.
Merci, à la semaine prochaine.